Et toi, du coup, t'as lâché tes activités
précédentes.
Ouais,
je cherchais après 5 ans d'entrepreneuriat, j'avais envie de me rouvrir à des sujets un peu plus globaux et sociétaux. Et sur un climat, il y a l'ensemble de mes métiers, tu vois. Les études, la data, le design, le Ali Pitchy, le... Ouais, j'adore.
Trop cool. Bah, on va en parler.
J'ai un peu mon job idée.
C'est vrai? Excellent. T'as la semaine de 4 jours, là?
Ouais, et je suis resté en temps plein parce que, tu vois, je pilote la boîte, on m'a recruté.
Je m'intéresse beaucoup à la semaine de 4 jours, pour le principe. Qu'est-ce que tu fais de ta cinquième journée?
Alors, parfois, dans 30% des cas, je travaille le matin.
Ouais.
Ensuite, j'aime bien partir vélo, faire des week-ends, etc. Et du coup, je book à l'avance en me disant, tu vois, là, t'as 3 jours et tu ne travailleras pas le vendredi parce que c'est vraiment un week-end. Mais j'avoue que j'ai mis du temps à m'y mettre, parce que au début, je pense que pendant 6 mois, je me disais, mais il me manque une journée de travail. Tu vois, pour finir mon travail, c'est comme les membres amputés que tu sens encore après. Bah, c'est exactement cette image-là. Je vois bien qu'il me manque une journée là. Je vais pas arriver à faire ce que j'ai à faire.
Mais du coup, ça veut dire au début de ta semaine de 4 jours, tu t'es forcé à ne travailler que 4 jours et à te dire, ok, j'ai que ce temps-là, et même si c'est pas fini dans les 4 jours, c'est terminé quoi.
Ouais, au début, j'étais un petit peu en mode, je veux faire mes preuves, je suis arrivée, il y avait une grosse étude à sortir, etc. Donc j'ai pas du tout compté mon temps. Mais après, j'ai commencé à le faire, ouais. Et je te dis, tu te cales des choses, tu vois, des week-ends où t'es pas là, etc. Et au moins, tu es obligé. Et ça te fait dire, tu es off, tu es en week-end. Qui est bizarre d'être en week-end, après jeudi, quoi.
C'est toi qui l'avais demandé ou c'est chez Parlons Climat que c'était instauré?
Déjà, Lucas, quand il cherchait un associé, il l'avait mis dans l'annonce.
Ok.
Et on a tous les deux en commun d'être workaholic, de travailler énormément. On a beaucoup travaillé dans notre vie. On s'est dit, on est passé peut-être même à côté de pas mal de choses dans notre vie perso à cause du travail. On s'est cramé, etc. Et voilà, à 35 ans ou plus, on avait envie d'autre chose.
Un autre modèle.
Ouais, c'est un autre modèle.
Okay. Et là, on enregistre sur un jour off ou on enregistre sur un jour travail?
On enregistre sur un jour travail, c'est vendredi. Ouais.
Okay.
Mais il y a beaucoup de conférences et d'interventions qui sont vendredi ou de réunions, tu vois, de collectifs.
Et à ce moment-là, tu fais quoi du coup? Tu y vas ou...
Ouais.
Tu dis pas genre non, je suis pas là le vendredi.
Alors, si j'ai prévu une rando ou tu vois, j'ai vraiment un week-end de prévu, je dis non, mais comme dans n'importe quelle entreprise où t'as posé ton jour off, on voit qui peut se remplacer, tu vois, mais régulièrement, il y en a qui font des interviews sur leur vendredi. Ça fait partie du truc.
C'est quoi ton jour, ton week-end de 3 jours préf?
Partir à vélo.
C'est à vélo, du coup.
Je viens d'arriver à Nantes, donc.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que quand tu me dis rando, je suis là. Nantes, rando, ça marche. Ah si, la Bretagne, ouais.
Tu peux le sentir, mais moi, je suis très vélo. Donc, mettre mon vélo dans le TER pour partir explorer ma nouvelle région qui est la Bretagne, c'est chouette, quoi. Et effectivement, en fait, moi, c'est pour ça que j'adore partir à l'aventure et que je partais en nature et que j'ai voulu le démocratiser via mon premier projet, 2 jours pour vivre, où je parlais de micro-aventure, partir 2-3 jours juste après le boulot, parce que ça me fait un bien fou et parce que je peux pas avoir d'ordinateur. Et parce que je prends pas de batterie externe et que, tu vois, je suis complètement wild et je peux pas, à la limite, je suis avec mes mails, mais je suis devant la montagne, si tu veux, je peux même pas y penser. Enfin, je regarde ça, ça me fait prendre une distance avec le travail qui est. Alors que je suis stressée, tu vois, d'habitude, je réponds à tous mes mails, etc. Là, t'es dans la montagne avec tes potes. Ton mail semble très très loin de toi. Tu vois, et j'adore. Et quand je pars en vacances et que finalement j'en ai pas d'ordinateur, tu peux me demander ce que tu veux. Je suis 2 semaines à vélo, je n'ai pas d'ordinateur. Je ne peux pas faire.
Bon, on va commencer cet épisode. Merci beaucoup pour cette introduction sur la semaine de 4 jours. J'adore. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de. Et d'ailleurs, je suis très content qu'on ait commencé par parler de ça parce que la façon d'aborder un sujet, c'est aussi ce que vous essayez de véhiculer chez Parlons Climat, que ça, tout a un sens. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre que on peut pas parler de climat à tout le monde exactement de la même façon. Et donc, pour ça, je suis avec Amélie Deloffre. T'as cofondé du coup Parlons Climat.
Tout à fait.
Et d'autres projets aussi. Tu disais 2 jours pour vivre juste avant. Et du coup, je suis ravi d'être avec toi. Est-ce que tu peux te présenter, me dire un peu ce que t'as fait avant de faire Parlons Climat?
Je suis donc Amélie Deloffre. J'ai 37 ans. Moi, j'ai vraiment un ADN de monteuse de projet, quoi. J'ai écrit sur LinkedIn, c'est peut-être un peu pompeux. Entrepreneur d'intérêt général, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce qui manque dans ce monde? Qu'est-ce que je pourrais porter? Que ça soit une entreprise, que ça soit une asso, que ce soit un projet lucratif ou non, c'est pas trop mon sujet. Et donc, effectivement, je viens du monde de la com. Je travaillais d'abord en agence chez Publicis. Après, je suis passée en start-up, j'ai fait de la big data, etc. C'était assez intéressant. Je suis autodidacte en design. Donc, je suis spécialisée en ce qu'on appelle la data visualisation, le data storytelling. Que j'ai enseigné au CELSA et quelques conférences là-dessus. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a 7 ans sur un sujet qui s'appelle la micro-aventure. Partir à l'aventure près de chez soi, pas besoin d'attendre les grandes vacances, partir dans l'Himalaya, etc. Ça a vachement résonné avec le Covid, rester près de chez soi et puis la crise écologique, tu vois, moins prendre l'avion. J'ai fait ça pendant 5 ans. à un rythme, je dirais, assez soutenu. Et
avec
puis,
à chaque fois la vision écologique en jeu, ou au début c'était plutôt...
Au début non. Et ouais. très honnêtement, on est plusieurs à s'être lancés en 2017, c'est que c'était vraiment dans l'air du temps, parce qu'on a tous proposé le même concept, qui après a eu le nom de micro-aventure. Donc c'était...
ce truc de Chiloé, de Les Others, etc.
Exactement.
Et vous êtes lancés tous à peu près
ouais,
à ce moment-là.
Et puis on s'est connus, tu vois. Et donc il y avait quelque chose de sous-jacent, de se reconnecter à la nature, de moins travailler, remise en cause des valeurs de la surconsommation, etc. Et quelle était ta question?
C'était sur la micro-aventure, ouais. Donc, c'était pour. Eh oui, est-ce que du coup, tu avais
un objectif
écolo au début
non.
quand tu t'es lancé?
Ouais. Moi, c'était vraiment, je veux que les gens soient bien et soient heureux, tu vois. Je vois qu'on travaille beaucoup trop, qu'on n'en peut plus de nos vies. Et en fait, c'est juste qu'il y a une clé de bien-être financièrement accessible à tous, qui est la rando, le grand air, etc. J'avais envie de le partager et de dire, mais les gars, vous savez, vous prenez un TER, vous prenez un train de nuit, vous êtes à l'autre bout, parce qu'on est parisien, marseillais, lyonnais, et effectivement, c'est que pour les grands citadins, quoi. Et on peut, et qui peuvent payer le billet de train, n'oublions pas de le dire, et on peut vivre des choses incroyables près de chez soi. Et arrêtons de faire des city breaks à Berlin sur un aller-retour, ça sert à rien, c'est nul. Voilà. Donc, il fallait revaloriser, et ce qu'on a réussi tous collectivement à faire, je pense, en 7 ans, là, c'est de coolifier un peu la France et voilà, que le Cotentin, le Cézallier, l'Auvergne, on se dise waouh, j'irais bien faire un week-end, ça devient le nouveau cool, tu vois, faire bouger la norme sociale.
Ok, et ouais. Donc ça, c'était ton activité à plein temps, 2 jours pour vivre pendant quelques
pendant
années,
ans, ouais.
pendant 5 ans. Ensuite, t'as fait deux autres choses avant, enfin, t'as fait une autre chose avant parlant de climat, du coup.
Ouais, c'était
Itinéraire Bis, c'était la même chose.
Je superpose, qui est un collectif, oui, Itinéraire Bis, okay. Où je regroupe justement mes pairs, créateurs de contenu, influenceurs, qui sont dans leur bulle un peu écolo. On parle tous de train, de montagne, de rando, de France. Pardon, j'ai oublié de dire, beaucoup de journalistes également. Et on parle à nos pairs, on s'est regroupés pour pouvoir sortir de nos bulles et dire « Ok, on va aller voir les journalistes de TF1, de BFM, etc. » en leur disant « En fait, vous êtes prescripteurs, bien plus que nous, parce que nous, on est dans mini-bulle écolo. Vous devez changer les représentations médiatiques du voyage. Donc, moins de plages turquoises en plein hiver, ça n'a pas de sens. Moins d'avions, regardez tout ce qu'on vous propose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes spécialisés, en fait, dans les grandes rédactions, à part Le Figaro et Le Monde, tu vois, le reste, c'est des journalistes un peu cross-sujet, donc ils connaissent pas forcément le voyage, et donc on les supplée, on leur donne, tu vois, des ressources, des angles, des photothèques, un lexique, un annuaire de contact pour faciliter la réalisation de reportages et d'articles.
Et ça tourne encore?
Ouais, ça tourne encore, mais c'est de longue haleine,
ouais.
Je dirais. Tu vois, c'est quand même une sorte de lobbying caché.
Plaidoyer dans ce sens-là.
De plaidoyer, tout à fait. Non, on est super bien référencé. On a fait tout un site avec des ressources qui est montré par tous les formateurs climat au sein des grandes rédactions. Donc, on est vraiment identifié. De Géo à TF1 à M6, tu vois, on est identifié. On a créé des premiers contacts avec les journalistes qui sont, tu vois, des zéros, c'est quand même un pas, hein, de rencontrer les journalistes qui t'écoutent, qui répondent à tes mails. C'est quand même des gens méga sollicités. Et on a réussi ce premier pari en année 2, tu vois. Donc, c'est quand même pas mal.
Mais ça, en fait, l'objectif, c'est quoi? Ça veut dire, au moment où ils écrivent un article, ouais. Ils viennent vous voir en disant, est-ce que j'ai bien fait les choses, ou est-ce que c'est plutôt vous qui allez leur pousser les trucs
en amont.
D'accord.
Alors après, s'ils peuvent le faire sans nous, on n'est pas du tout... Nous, on veut juste que les représentations médiatiques du voyage, elles changent pour que la désirabilité de rester en France du train augmente, tu vois. S'ils peuvent le faire tout seuls, tant mieux. Hein. C'est juste, nous, on se dit, si vous avez des besoins, on vous donne tout ce qu'on a, parce qu'on fait de la veille tout le temps, c'est nos milieux, on connaît par cœur. Si vous avez... Des besoins, aussi surtout de trouver des gens du jour au lendemain, ils nous appellent pour dire bonjour, je voudrais suivre quelqu'un qui se lance sur la première fois sur une voie verte en famille, est-ce que vous avez quelqu'un à me proposer pour que j'aille le suivre ce week-end? C'est challenger, tu vois. Donc on essaye de suppléer. Il y a un angle militant, tu vois, qui peut être fait par Quota Climat, etc. Et c'est super. Et on s'est demandé au début, est-ce qu'on est militant? Parce que beaucoup ont des engagements à l'intérieur du collectif. Et on s'est dit, en fait, viens, on prend un autre angle, tu vois, c'est déjà fait le militantisme. Tu vois, il y a Tolt en voyage qui était vachement militant à l'époque sur l'avion. Aujourd'hui, il a un tout petit peu changé. Et on s'est dit, en fait, il faut, comme des chiens de berger qui entourent le troupeau, il faut plein d'angles, tu vois. Et nous, effectivement, on s'est positionné en se disant, pair à pair, on est comme vous, on écrit, on crée des contenus, viens, on discute. Vraiment des pairs de métiers et on propose des solutions plutôt.
Ok, c'est intéressant parce que en fait ça paraît, tu dis j'ai fait plein de trucs, j'ai monté plein de boîtes, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une cohérence qui est très très forte parce qu'en fait finalement avec Itinéraire Bis tu essayes de parler de climat d'une façon que les journalistes peuvent, enfin qui parlent aux journalistes, donc c'est déjà quelque chose qui va un peu dans ce que tu fais aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que tu peux me parler un peu de Parlons Climat? De ce que vous faites.
Parlons climat, donc on a un format asso, on est 3 pour le moment, et notre objectif c'est d'engager plus largement les Français dans la transition écologique, on s'aperçoit qu'il y a 30% des Français aujourd'hui qui priorisent le sujet climat. Ça veut dire pas qu'ils en font leur top priorité pour le pays, juste que c'est un des trois sujets très importants pour le pays. 30%, c'est super, c'est le job qui a été fait ces dernières années. On remercie les militants qui ont mis l'agenda politique, oui. les médias qui en ont beaucoup parlé, etc. C'est quand même beaucoup mieux couvert.
Mais surtout, moi, ce que j'avais en tête, c'est que pour qu'un sujet devienne complètement mainstream, il fallait qu'il y ait 5% d'une population ou d'un échantillon qui soit un peu convaincu. 30%, du coup, c'est monumental. Ça voudrait dire en un mot que tout est réglé, quoi.
Tu sais que ce chiffre du point de bascule, c'est dans le dernier newsletter, il est remis en question. Les fondements scientifiques qui étaient, il faut un point de bascule, 5% des gens convaincus pour que la société bascule, c'est scientifiquement remis en question. Okay. On n'est pas sûr que ça soit ça. En tout cas, 30%, ça suffit pas pour faire accepter des politiques publiques, tu vois. T'as vu, on a vu la taxe carbone, les gilets jaunes, etc. Donc
non,
alors, quand même,
je suis pas sûr que ce soit pour faire accepter des politiques. En revanche, c'est pour que un sujet devienne mainstream et complètement acceptable. C'est pas forcément pour que il puisse être que tout puisse être voté, quoi.
Ah oui, non, pas que. Il y a les politiques publiques, il y a effectivement la désirabilité, il y a le changement de pratique individuelle, il y a plein de leviers. Ou s'engager dans un mouvement social, tu vois. Je pense qu'il y a plein de clés. En tout cas, voilà, 30%, ça suffit pas. Et on s'aperçoit qu'on, ça stagne, tu vois, dans les chiffres, cet engagement. Et on s'est dit, OK, en fait, on s'est aperçu que... si on parle toujours de la même manière, on arrive toujours au même résultat. Tu vois, je crois qu'Einstein, il dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, on parlait qu'entre nous. C'était le constat, et je pense qu'il a été aujourd'hui accepté au bout de 2 ans de travail chez les militants, notamment parce que c'était vraiment notre première sphère de travail et de partenariat. Les ONG, etc. En gros, il y a quand même que des militants très à gauche dans les organisations. Et du coup, forcément, ça se traduit dans ton langage, dans le choix des mots. Et on n'en avait pas forcément, tu vois, conscience. Et du coup, ça parle qu'à une petite partie de la population. Ce constat-là, il a été accepté. C'est juste comment on fait. Et donc, nous, on travaille là-dessus. On fait des études. On essaye de creuser vraiment et de comprendre les publics les moins engagés, qui sont ceux qu'on ne côtoie pas, qui sont un peu tendus par les arguments écolos pour plein de raisons. On va essayer de comprendre pourquoi. C'est pas qu'ils veulent pas. C'est qu'ils ont des vies, des préoccupations, des lunettes pour voir la vie, des valeurs, des choses qui sont très importantes pour eux, qui ne sont pas pour nous. Et une fois qu'on arrive ça, on arrive presque sur, on dirait, la reco-stratégique. On arrive sur quels sont les leviers, en fait. Qu'est-ce qui pourrait les atteindre, ces gens? Comment on fait pour mieux les prendre en considération dans nos communications, mais aussi dans nos propositions de mobilisation? Là, on discute, tu vois, peut-être qu'un jour, on servira, tu vois, à orienter le design des politiques publiques pour mieux prendre en compte ces gens-là. Donc, on a travaillé sur des gens qu'on appelle des laissés pour compte. Je pourrais t'en parler, pourquoi ça s'appelle les laissés pour compte.
On reviendra là-dessus sur les deux études,
Climato-sceptique, puis la droite, on a eu une commande pour travailler un petit peu sur les chrétiens. Enfin, voilà, on creuse différents segments.
Quand tu dis on a une commande, c'est qui vous commande ça?
Alors, on n'a pas eu de commande. C'est le mot est mal choisi. C'est des assos type Arocha, la conférence des évêques, etc. Donc, des acteurs.
C'est comment est-ce que nous on parle à notre population?
Ouais. Et ils voulaient savoir est-ce que vraiment l'Église a un rôle à jouer? Même il y avait ça. Outre le comment, c'est déjà quelle est la perception des pratiquants? C'était les cathos et les protestants pratiquants. Est-ce que vraiment il y a un déficit? Il y a des études des États-Unis qui montraient qu'il y avait un lien entre foi et tu vois. L'homme est un peu au-dessus de la nature. C'est Dieu qui doit se charger de réguler le climat, enfin de gérer ça. Et c'est quelque chose qui était déjà un petit peu avéré, qu'il voulait vérifier.
Le pape François avait quand même sorti une grosse encyclique écologique.
Exactement. La date aussi. Et on a publié notre étude l'année dernière pile à ce moment-là. C'était bien actuel.
C'est arrivé en pile en même temps.
Ouais.
Ouais, bravo. Tu m'as dit 30% du coup qui sont engagés, c'est pas suffisant. Les 70%, ils font quoi?
Alors, ils font plein de choses, il y a un ventre mou. Et je dirais, nous, on a calculé qu'il y avait à peu près un Français sur deux qui a un risque d'opposition, plus ou moins fort. Dans les sondages, on voit que tu as à peu près 20% de ce qu'on appelle technosolutionnistes. Donc, c'est ceux qui disent qu'en fait, on va trouver des solutions technologiques, il n'y a pas nécessité de transformer radicalement notre mode de vie. Tu as 25%, et c'est un tout petit peu à la hausse, et effectivement, on en a pas mal parlé dans la presse, de climato-sceptiques. Donc, c'est ceux qui reconnaissent l'existence du changement climatique et t'accepter. C'est juste les causes. Que ce soit l'activité humaine, donc ça tu vois t'as 25%, t'as 20% des gens qui disent je suis déjà au max, je peux pas faire plus, et t'as 25% qui sont pour les libertés individuelles fondamentalement, même si c'est au détriment de la préservation de l'environnement. Quand tu juxtaposes, on a pris ces segments là tu vois dans nos sondages, quand tu les recoupes, ça fait 50% de la population, environ 53 je crois.
Ouais, parce qu'il y en a qui sont dans plusieurs catégories à la fois.
Ouais, tout à fait.
Ok,
tout à fait. Donc c'est les freins à lever si tu veux. Et qui sont assez fortement, il y a des croyances, il y a plein de choses qui se jouent derrière, mais voilà.
Ok, alors on va repasser là-dessus, savoir en fait quels sont, est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on parle à ces familles différentes de valeurs. Mais avant ça, j'avais un petit une sorte de petite séquence où je te pose des questions pendant un temps limité. Tu dois répondre juste par oui ou par non sur des questions qui peuvent être un peu parfois difficiles à répondre. Donc, c'est à toi de répondre par oui ou par non.
C'est mon avis ou c'est mon niveau de connaissance qu'on teste?
C'est ton avis plutôt.
Ok.
Ouais, l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu qui est Amélie Deloffre.
Ok.
Voilà. Top maintenant. Est-ce qu'on se plante dans la façon dont on communique sur l'écologie aujourd'hui?
Oui.
Est-ce qu'il y a une bonne façon de parler d'écologie?
Pas du tout.
Est-ce que donner plus d'infos donne de meilleurs résultats?
Non.
Jamais?
Si. Il doit... si, il y a une équation et c'est pas tranché sur le sujet.
Est-ce qu'on peut mettre la société dans des cases pour mieux savoir comment leur parler?
C'est ce qu'on fait, c'est pas parfait, mais ça aide à comprendre.
Est-ce que l'écologie est avant tout une question de récit de futur souhaitable?
Allez, je vais dire oui.
Est-ce que les réseaux sociaux rendent-ils la communication écologique plus difficile?
Non, pas nécessairement.
Est-ce que les actions individuelles peuvent-elles influencer la lutte contre le changement climatique?
Oui.
Est-ce que la France est écolo?
Ah, ça dépend d'où on la regarde.
À 30%, disons.
À 30%. Okay. Sachant que nous, on mesure l'opinion publique, tu vois. Après, y a une, on sait que c'est paradoxal avec les usages, tu vois. On ne peut pas mesurer tous les usages de consommation, de, entre quelqu'un qui te dit qu'il il comprend que prendre l'avion, c'est négatif, mais il le fait quand même, tu vois. Y a on voit qu'il y a tu vois, y a un mouvement d'opinion publique, notamment je prends l'avion parce que c'est un cas que je connais très bien. On voit que vraiment, ça avance dans l'opinion publique. Pour autant, on n'a pas, vu un effondrement, si tu veux, des usages en termes d'avion, quoi, des Français.
Donc, on augmente plutôt une sorte d'augmentation de la dissonance entre le discours et l'action à ce stade.
Mais tu peux te dire que c'est peut-être...
la première étape.
Exactement. Ouais. C'est peut-être le chemin naturel.
Ok. Donc, tu disais tout à l'heure, on avait à peu près 50%, avant qu'on repasse sur cette séquence, tu disais qu'on avait à peu près 50% du coup de la population qui était dans une sorte d'opposition.
Ouais.
Est-ce que c'est ça ce que tu appelles des familles de valeurs ou pas du tout?
Pas du tout. Les familles de valeurs, c'est une segmentation qui n'est pas la nôtre. C'est un think tank qui s'appelle More in Common, donc c'est Destin Commun en français, qui a créé cette segmentation de valeurs. En fait, c'est né... je crois pendant le passage de Trump et le Brexit, les analystes, d'habitude on fait des analystes avec des critères sociodémographiques. On regarde les jeunes, les vieux, comment ils ont voté, ceux qui votent pour la gauche.
C'est ce qu'on a fait avec Salomé Saké, qui a écrit un bouquin sur les jeunes.
Ouais. Bah, non mais c'est pas faux, c'est juste que nous on prend une autre grille de lecture. En fait on s'est aperçu, et notamment pour ces phénomènes-là et nous pour le climat, que c'était trop restreint, ça n'expliquait pas tout. C'est pas que un clivage intergénérationnel, c'est pas que homme-femme, c'est pas que les riches et les pauvres. Même s'il y a des trucs qui corrèlent plus, le niveau de vie et le vote politique sont quand même des marqueurs assez importants du rapport au climat. Et donc, c'est ce principe de segmentation, de se dire, OK, on va interroger plutôt les valeurs des Français. C'est vraiment une segmentation psychosociale. Et donc, c'est des scientifiques qui ont planché là-dessus. Ils ont posé 70 questions psychosociales, avec des questions telles que qu'est-ce qui est important comme valeur à transmettre à vos enfants? Est-ce que le monde va dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction? Est-ce que vous êtes positif, défaitiste, etc. C'est que des questions comme ça. Et ça a donné donc une segmentation avec 6 familles de valeurs, ce qu'on appelle. Et donc, nous, on l'utilise. C'est un outil. Et donc, il y a 6 catégories. Il y a les militants désabusés, les stabilisateurs, les libéraux optimistes, les laissés pour compte, sur lesquels on a fait une étude, les identitaires et les adventistes. Et donc, nous, on l'utilise pour la plupart de nos sondages, ce qui nous permet après, si tu veux, de faire des recoupements. On va faire un sondage sur, je ne sais pas, les transports, un autre sur commerce international, et puis on a d'autres organisations aussi comme nous qui travaillent et qui utilisent cette même segmentation, ce qui nous permet après de refaire, tu vois, des recoupes inter-thématiques.
Alors, est-ce qu'on peut refaire un peu les catégories pour essayer de voir un peu ce que ça vaut?
Les militants désabusés. Donc, c'est le segment quand même le plus étroit. Je crois qu'on entend militants désabusés. Donc, tu vois, c'est des gens qui sont à gauche, qui sont très engagés. C'est le segment le plus engagé, qui sont désabusés parce qu'effectivement, ils ont une vision un peu pessimiste de ce qui va arriver, quoi.
Ouais.
C'est ceux qui sont engagés pour le climat, quoi. C'est les écolos, on va dire.
Okay.
Les militants désabusés. Ensuite, t'as les stabilisateurs. Les stabilisateurs, c'est un segment qui est un peu plus âgé, qui est plus propriétaire, qui a un peu plus d'argent. C'est ceux qui donnent, d'ailleurs, aux assos. Ils sont pour l'ordre social, enfin, pour la cohésion sociale, c'est très important. Donc, tu vois, les inégalités, ça les touche beaucoup. Mais si tu veux les mobiliser, par exemple, la radicalité, ça marchera pas. Parce que la cohésion sociale, faut pas faire de bulles, tu vois. Pas faire de vagues. T'as les libéraux optimistes. Les libéraux optimistes, ils sont caractérisés vraiment par un très fort optimisme sur le monde va bien. Enfin, ira bien. Et on s'en sortira.
Beaucoup de technosolutionnistes ou...
Ouais. À grosse maille, c'est un peu cliché de dire qu'ils sont que technosolutionnistes, mais ils sont un peu plus effectivement technosolutionnistes, un peu moins en faveur de l'intervention de l'État, etc. Donc il y a ça, et c'est pas vraiment corrélé à les riches, les pauvres. On pense tout de suite Startup Nation. Il y a parfois un cliché où on met Startup Nation.
Ouais.
Pas trop. On l'a vu qu'il y en avait aussi en banlieue parisienne. Tu vois, il y a en banlieue, il y a le, tu vois, c'est le chauffeur Uber aussi. Il y a ça, l'auto-entrepreneur. Il y a un peu ça. Et ils sont plus, pour eux, la valeur travail est très importante. Et ils pensent qu'on peut y arriver dans la vie si on travaille. Et que si tu travailles, t'as toutes les chances de réussir. Là où les premiers vont dire, les militants désabusés vont dire, c'est la chance. C'est le TF1, c'est là où t'es né. Voilà. Donc, c'est pas le même rapport au travail et aux inégalités. T'as laissé pour compte, qui sont caractérisés par un fort déclinisme, défaitisme, ils ont des difficultés économiques. C'est le segment le plus. Bon, c'est pour ça qu'on a fait une étude spéciale, c'était 20 à 25% jusqu'ici. Là, on a l'impression dans nos dernières études, c'est à valider que c'est plutôt 25%, 30% de la population. Il y a eu la crise du pouvoir d'achat, donc ça bouge. Hein. Donc c'est beaucoup. C'est un segment quand même qui est important et qu'on connaît pas du tout. Autant les trois premières, tu vois, en tant que... Bon, je sais pas si on dit qu'on est des écolos, mais on les connaît, on les côtoie.
Ouais.
Autant les laisser pour compte, et c'est pour ça aussi qu'on les a creusés, beaucoup moins.
C'est quoi, c'est parce que c'est des ruraux, des périurbains qui sont...
Périurbains, difficultés économiques, très peu connectés à l'information.
Ouais.
Là où les trois profils sont à fond, c'est ceux qu'ils n'ont pas beaucoup d'inventivité, ils se sentent déclassés, non valorisés, non écoutés, ça leur tombe dessus, la transition, c'est très élitiste.
Est-ce que c'est gilet jaune ou c'est encore trop...
Apparenté gilet jaune, ouais.
Ouais.
C'est pas, ça superpose pas parfaitement, mais ouais, effectivement, c'est une image un peu qu'on peut en avoir. Ensuite, t'as les attentistes, qui est bon, ce qui est la catégorie qu'on définit le moins, parce que attentiste, quoi, c'est un peu le... qu'il reste, et les identitaires plus âgés, plus ruraux, politiquement engagés, fortement orientés vers le RN, qui ont une valeur, qui sont très fiers du passé de la France, un peu de patriotisme, etc. En gros.
Ok.
En très gros.
Et donc, à chaque fois, donc, sur ces six familles de valeurs, il y a des discours qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas du tout, donc des discours qui antagonisent et des discours qui embarquent.
Ouais.
Et là, vous avez réussi à déterminer en gros comment parler à chacune de ces familles de valeurs, c'est ça ?
Alors, pas aussi précisément parce qu'on a, aujourd'hui à date, on ne dit pas qu'on sait exactement parler aux identitaires, aux laisser pour compte, etc. On comprend juste leurs préoccupations. On essaye de déterminer des leviers. Voilà, les laisser pour compte. On a l'argument de changer le système, c'est quelque chose qui marche très bien avec les laisser pour compte parce que le système marche pas pour eux. Tu vois, ils vont être très empathiques avec les agriculteurs qui gagnent pas leur vie, etc. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'aime pas dire tu peux jouer parce que ça fait vraiment genre on fait tout pour leur parler alors qu'en fait il y a quand même une part qui est en fait on les comprend pas et on devrait les prendre en compte. C'est pas juste on doit juste changer son discours et leur faire avaler des trucs qui leur conviennent pas. Tu vois, ils ont pas d'argent, ils vont dire bah la voiture électrique c'est super mais je peux pas me l'acheter. Tu vois, qu'est-ce que tu réponds à ça qui est une offre de leasing mais qui est pas suffisante pour eux et qui est pas accessible à tout le monde. Donc il y a un peu ça. Il y a des déplacements de ton effectivement pour les laisser pour compte parler à 2050 ça n'a pas de sens. Tu vois, changer le système. On s'était dit changer le système ça veut dire quoi? Changer le système pour les ça marche très bien chez les militants désabusés, sur les stabilisateurs aussi, sur les laisser pour compte changer le système ça veut dire quoi? Justice sociale, on comprend pas. Justice sociale, ça, on comprend pas. Donc, en fait, c'est autre chose que dire le système est en train de changer via venir rencontrer ceux qui sont en train de mettre la main à la pâte, quoi. C'est plein de choses comme ça, de petites choses qu'on essaye de mettre en place et on donne les clés à plein de communicants. En fait, je sais pas si je l'ai expliqué, mais notre but, c'est quand même de donner des clés, de travailler avec des communicants en bout de chaîne. On va jusqu'à la reco stratégique qui est effectivement quelle est leur consommation média, qu'est-ce qu'on pourrait davantage cibler, est-ce que c'est la télé, quel compte Instagram, etc. Parce qu'on les interroge sur leur consommation média. Et ensuite, effectivement, on est en train de monter une communauté de pratique qui verra le jour dans quelques mois. On va recouper tous les communicants climat qui bossent sur plein de sujets de transition, le réemploi, l'agriculture, l'alimentation, pour qu'ils puissent pratiquer sur la base de nos insights, parce qu'on n'est pas assez aujourd'hui pour dire qu'on travaille sur chaque campagne, chaque message, etc. On a essayé de le faire au début. On s'est dit qu'on n'était pas assez staffé pour faire ça, qu'on allait plutôt regrouper les gens, créer des workshops où on se dit, OK, on prend les laissés pour compte. Vous avez quoi? Les éoliennes. Très bien. Comment ça résonne? Vous avez quoi? Le vrac. Voilà.
OK, super intéressant. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la climate communication?
Ouais. La science de savoir mieux parler climat. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a des scientifiques qui travaillent vraiment dans l'acceptation. Comment dire ça? Nous, c'est pas hyper scientifique. Je sais pas comment te répondre. On va dire oui.
Je dirais peut-être qu'on peut pas pricer. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de la bulle alors?
Waouh.
Puisque du coup, l'objectif, c'est quand même d'essayer d'aller parler à des gens qui sont pas forcément donc dans ces dans ces militants désabusés. C'est quoi la technique pour sortir de la bulle et pour réussir à les toucher?
Alors, je sais pas si je peux te donner une technique comme ça, sinon on
La
ferait
secret
un
sauce.
one page et on l'enverrait à tout le monde et ça serait réglé. Il y a un sujet de déjà d'émetteur. C'est le truc qui ressort le plus. En fait, nous, quand on a commencé à travailler, on s'est dit, OK, on travaille avec le mouvement climat, avec des assos, etc., qui prennent déjà la parole. On va essayer de leur montrer qu'il faut se décentrer, etc. Ça, c'est acquis, tout le monde est OK, etc. Mmh. On va changer les mots. Et on se dit, ça, c'est valable dans quelle mesure, tu vois? Jusqu'à où tu peux sortir de ton milieu et de qui tu es? Donc, oui, il y a un travail sur les mots, sur le discours, etc. Et faut faire émerger de nouveaux émetteurs, tu vois, tout simplement.
Des nouvelles figures. Genre des séries Barkat, banlieue climat,
exactement.
Ou ce genre de choses, quoi.
Parce que, on peut essayer de ne pas tendre, tu vois, de pas tendre les gens avec des arguments qui leur conviennent pas du tout, essayer de comprendre. Et ça, c'est notre taf, de dire, regardez, en fait, les gens, ils vivent comme ça. Ce que tu lui dis, bah, ça marche pas, quoi. Évidemment, pas utiliser, enfin, vulgariser. On voit que personne n'utilise carbone, CO2, gaz à effet de serre, notamment chez les militants, chez les laissés pour compte. Donc, faut peut-être parler de pollution. Enfin, il y a quelque chose à craquer là-dessus. Donc, il y a les mots, mais il y a aussi le fait de trouver de nouveaux émetteurs et faire émerger aussi de nouveaux émetteurs. Les caractéristiques, il y a des gens qui veulent les laissés pour compte. La première caractéristique qu'ils souhaitent voir chez un acteur de l'environnement et de l'écologie, etc., c'est la proximité avec les gens comme nous. Et en fait, quand ils regardent la télévision, ils regardent beaucoup le JT, bah, ils voient personne comme eux. Donc c'est très difficile, et ils vont nous citer Bardella, qui paraît comprendre qui ils sont, parce qu'ils ont fait moins d'études au RN, tu vois, il y a ce côté moins élitiste, et qui d'ailleurs, ils se retrouvent très chez Hanouna, parce que Hanouna a su emprunter tous les codes, tu vois, tutoyer, ouais, viens dormir chez moi, la proximité, la sympathie, qui fait qu'il y a une proximité affective avec ces gens-là. Donc il y a un sujet, si tu veux, de discours, d'adaptation des discours, effectivement, et de trouver les bonnes figures. Et donc, on devrait marcher sur ces deux jambes si on voulait y arriver.
Ok. Mais du coup, tu es en train de dire quand même que, je sais pas, dans le cadre de The Big Shift, si j'ai envie d'aller chercher plus de monde, il faut que j'ai un co-animateur qui vienne d'un milieu différent ou qui soit...
Ouais. Et puis même, il faudrait que tu changes tout. T'as comme même, je pense, même les codes graphiques, ça, on l'identifie pas et on l'a pas pour l'instant travaillé, tu vois. Mais même, je pense que dans nos codes graphiques, et outre notre vocabulaire, même ça, il faudra le changer. On a tous le même code graphique, léché, enfin, les mêmes typos, tu vois. Même ça, il faudrait le changer, tu vois, idéalement.
Ok. Vous accompagnez les gens là-dessus ou pas?
On n'a pas encore fait ce pas-là. Mais idéalement, on essaye de monter là, un petit pool de freelance, tu vois, de divers métiers de la communication qui connaissent très bien nos travaux et qui les suivent et qui pourraient effectivement, tu vois, monter sur plein de sujets de communication et essayer de les adapter.
Tu disais là que vous avez du coup sur une famille de valeurs, notamment les laissés pour compte, vous avez décidé de faire une étude très spéciale sur eux en particulier, ouais. Parce qu'ils représentent une part assez importante de la population. Qu'est-ce que ça donne? Vous avez deux études, du coup vous avez les laissés pour compte et puis j'ai vu que vous aviez fait les Français par le climat aussi pour essayer de regarder en gros ces différentes familles, comment est-ce qu'elles ont besoin d'évoquer le sujet du climat.
Ouais.
C'était quoi les grandes conclusions de ces deux études?
Alors les grandes conclusions. Il me pose une cote. Les grandes conclusions des laissés pour compte, c'est que, je vous les oriente, hein, parce qu'il y en a tellement, c'est qu'ils ne sont pas, contrairement aux clichés, ils ne sont pas anti-écolo. Ils sont mobilisables. Tu vois? Vraiment. Il n'y a pas cette haine de l'écolo qu'on aurait pu voir surgir. Pas du tout. C'est juste, même ils en ont une vision positive. Déjà, ils sont conscients, du changement climatique. Tu vois, ils ont tous, à côté de chez eux, un agriculteur, leur étang qui est asséché, etc. Donc, ils sont tous conscients qu'il y a un souci, que c'est très important pour eux, ils sont inquiets, etc. Donc, il n'y a pas trop de débat là-dessus.
Est-ce qu'ils font partie aussi peut-être de la population qui subit l'écologie, c'est-à-dire qui n'a pas forcément une écologie par choix, mais plutôt parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre cet avion, parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir en vacances plus, ou ce genre de choses?
Exactement. Donc, moi, on a pas mal discuté avec des chercheurs qui travaillent vraiment sur les pratiques écologiques des classes populaires et des classes moyennes. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, et ça ressort dans nos entretiens du coup qualitatifs, parce qu'on discute avec des gens, outre nos sondages, on fait des visios avec des gens, quoi. C'est qu'en fait, il y a des pratiques écolo, mais elles sont pas revendiquées comme telles. C'est du civisme, c'est quelque chose qui est vachement intégré, c'est la débrouille. En fait, on parle de débrouille, et en fait, là où non, on va mettre des mots, la ressourcerie, de seconde main, le réemploi, en fait, ils le font depuis toujours, tu vois. Ils réparent, parce qu'effectivement, il y a des difficultés, soit financières, soit quand t'es rural, t'as une autre approche, tu vois, outre la voiture, un mode de vie un peu plus sobre, de l'aide entre les voisins, etc. Et ça, c'est des pratiques, en fait, qui sont écolo, et qui ne sont pas revendiquées et qui ne sont même pas reconnues par nous, entre guillemets, les écolos, tu vois. Donc on va arriver avec des trucs très descendants de il faut, et en plus la voiture c'est vraiment le truc le plus sensible, tu vois. Alors qu'en fait, ils font peut-être par ailleurs déjà leur part par rapport à des citadins qui commenceraient à trier, effectivement, à acheter de seconde main, alors qu'eux le font depuis toujours, tu vois. Mmh. C'est presque... ils ont intégré ça depuis leur enfance. C'est une manière d'être, c'est une manière de faire, quoi. C'est un mode de vie très... une écologie pragmatique, quoi, du quotidien. Mmh. Ça ne reviendrait jamais à l'esprit de dire qu'ils sont écolos pour ça. Jamais. Alors que nous, on va acheter de seconde main. Allez, t'as vu mon vélo, là, je ne l'ai pas acheté neuf. J'étais à la ressourcerie. Je suis écolo. Enfin, je ne suis pas écolo, mais enfin, voilà.
Ouais.
Tu vois. Donc ça, c'est aussi intéressant... à prendre en compte. Mais donc, ils sont pas anti-écolo. Il y a pas cette haine de l'écolo. D'ailleurs, ils trouvent ça cool. C'est juste qu'ils savent pas trop quoi faire et comment le prendre, tu vois. Ils disent, bah, écolo, c'est faire attention à tout, c'est faire plus que ce que je fais, mais ils savent pas vraiment quoi. Mais ils ont tous un référent, un voisin, un ami qui a fait quelque chose pour économiser les panneaux solaires, économiser de l'eau, etc. Ils trouvent ça bien. Juste, ils s'en sentent pas capables, tu vois. Donc, il y a quand même, c'est un public qui est extrêmement défaitiste et fataliste, et quand tu penses que tout est déjà fini, c'est quand même, il faut quand même leur redonner l'envie d'agir et le pouvoir d'agir, leur faire comprendre qu'ils peuvent, tu vois. Mais ils sont quand même, ils peuvent y aller, quoi. On peut y arriver.
Sur le site, du coup, il y a toute une partie, là, on va voir si t'as bien révisé, du coup. Vous avez 11 conseils pour mieux parler d'écologie. Et je les ai trouvés hyper pertinents. Est-ce que tu...
Tu vas me les réciter ?
Bah, je ne vais pas te les réciter, c'est pour ça que je voulais savoir si toi, tu les avais en tête. Mais sinon, on peut aller les chercher directement sur le site. On fait ça ?
Ouais.
Vas-y, on va regarder.
Je les connais, hein, croyez pas, je les connais. Mais...
C'est vrai ?
Pour ne pas dire d'annerie. C'est une presse qui a 2 ans qui continue d'être vachement téléchargée sur notre site. Donc, on est assez surpris, mais elle vit un peu seule, on la présente moins. Enfin, tu vois, les gens la téléchargent et on l'a essayé de la faire assez claire, je crois, parce que c'est vraiment... On se conseille, c'est assez light.
Bah, c'est sur parlonsclimat.org, du
ouais.
coup.
Mais on la présente assez peu, du coup. Elle vit toute seule. Elle vit seule.
Je les ai. C'est moi qui les ai dit ou c'est toi ?
Vas-y, vas-y.
Non, non, mais attends. Je suis gêné, du coup. C'est pas moi qui les ai écrits.
Bah non, tu les... T'inquiète. C'est de la synthèse, hein, c'est pas nous. On a vraiment synthétisé 10 ans de recherche en climate communication, pour info. On les a traduits en français courant, accessible.
D'ailleurs, il y a l'étude complète qui est accessible en téléchargement. Il suffit juste de laisser son email. Alors, 1. Connaître les valeurs du public visé, adapter son message. Donc ça, c'est la clé pour être entendu. C'est ce qu'on disait donc, avec les 6 familles de valeurs. 2. Déverser des faits scientifiques ne suffit pas à convaincre. Et d'ailleurs, là-dessus, très bonne anecdote, mais j'avais enregistré un épisode avec un autre podcasteur d'un podcast qui s'appelle Le Nectar, et il m'avait demandé de résumer un bouquin, et j'avais résumé le bouquin de Bruno Latour, le manuel pour une nouvelle classe écologique.
Mmh.
Et en fait, j'avais vu un enseignement de son co-auteur qui disait Don't Look Up, le film avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, c'était aussi une grosse critique de ces deux scientifiques qui finalement avaient essayé de déverser des infos en disant « Mais si, regardez, ça arrive !» et que toutes ces infos scientifiques n'avaient eu aucun impact parce que, en fait, en rajouter ne servait à rien. Donc, très intéressant. 3. Chaque narratif a ses effets. Le choisir avec soin peut faire pencher la balance. Enfin, comment est-ce qu'on peut le...
Tout à fait. C'est le choix des mots, quoi.
Ouais.
Effectivement, si c'est trop pointu, trop technique, les études ont montré que l'audience décroche, quoi. Il y a vraiment un décrochage pire, presque ça met presque l'effet inverse, quoi. Donc c'est hyper important de pas être trop technique, de pas être trop
T'as un
trop
exemple
pointu.
Là-dessus
Là, je te résume vraiment les études qui ont été menées dans le monde anglo-saxon, quoi.
Ok. Ah oui, parce qu'effectivement, c'est les 11 conseils du monde anglo-saxon. Ouais. Peut-être que ça s'applique pas exactement pareil à la...
Si, on peut se dire que ça s'applique. C'est juste, là, ils l'ont mesuré, tu vois, l'impact négatif.
4. Le sentiment d'appartement, c'est un fort vecteur d'engagement.
Ouais, ça, on tend à le dire. Si t'es tout seul et que tu crois, c'est même au-delà de la réalité, si tu crois que t'es seul à faire des efforts, tu ne les feras pas. Et c'est pour ça on donne quelques conseils comme ça en communication. C'est hyper important. On a tendance à communiquer sur les gens qui font pas. L'État... en fait, le manque d'exemplarité fait que les gens ne s'engagent pas. Les c'est pour compte et d'autres sont capables de nous citer les jets privés, les excès, tu vois. Mmh. Et du coup, c'est un frein à l'engagement. Donc, c'est important, en fait, de communiquer sur le fait que partout dans le monde, il y a plein de gens qui s'engagent. Sinon, t'as l'impression que t'es le seul à faire et tu ne fais pas le plat. Tu fais pas le pas.
Ouais, moi, la plupart de mes invités me disent que le collectif, c'est ce qui fait qu'ils arrivent à se motiver aussi au quotidien. 5. Donner la parole à des vrais gens, car l'empathie est un moteur d'engagement puissant.
Ouais.
Donc là, c'est effectivement trouver les émetteurs, comme tu disais, trouver les bons émetteurs qui correspondent à la cible. Donc, Ferris Barcade, banlieue climat. 6. La personne qui parle est plus importante que son message.
Ouais, quasiment plus importante. Si
ça,
tu crois
fou.
Pas, si t'es pas du même bord politique et que t'es une personne qui va te parler, tu mets à distance tout de suite ce qu'il va te dire. Ça, c'est assez fou.
Donc en gros, on s'enferme dans nos bulles et on a tendance à plus croire ce qui se passe à l'extérieur de notre propre bulle.
C'est inconscient, hein, c'est vraiment un mécanisme.
Donc ça, il y a peut-être un exercice à faire d'essayer d'avoir une sorte d'empathie ou d'essayer de comprendre les mots de la personne avec qui on n'est pas d'accord encore plus. 7, utiliser un vocabulaire trop technique diminue la compréhension du message et l'engagement. Donc ça, on en a parlé. 8, un mot ou un adjectif peut faire toute la différence.
Oui, tu vois, les adjectifs, tout ce qui est très, très, très alarmiste, très, très fort.
Moi, j'en avais un, mais c'est plutôt autour de... il faut réduire l'usage de la voiture plutôt que de dire vous pouvez augmenter l'usage du vélo.
Ah, ça,
donc,
oui.
Tourner dans un sens ou dans l'autre, l'usage de ce mot-là dans un sens peut faire varier. Bah, c'est peut-être du nudge, mais du coup, c'est effectivement, il y a un sens qui est très différent là-dedans, quoi.
Ouais. Je ne sais pas, c'est combien? C'est le conseil numéro
2? C'est 8.
Ok, je sais pas si on en... Il y a un autre exemple, je sais pas si c'est ce conseil-là sur lequel on a, mais on se demande vachement s'il faut être dans le constat alarmiste et à vraiment dire ce qu'il en est, tu vois, avec « bougez-vous », enfin « la maison brûle », on voit des choses comme ça assez fortes, tu vois, pour réveiller les gens, ou être dans la solution, mais qui est trop positif, tu vois. Mmh. T'as du négatif, trop positif, il y a un débat sur ce que ça peut causer, bah oui, mais des solutions, les gens se bougent pas. Et effectivement, la science, du coup, n'a pas tranché. On a montré que si on est trop alarmiste, on arrive à engager quand même une partie de la population qui a un sursaut et qui se dit « waouh, faut se bouger », il y en a une autre que ça met en retrait total. Et pareil, si t'es trop positif, bah les gens s'engagent pas. Donc ça, tu vois, c'est pas tranché. Donc il faudrait presque que les deux coexistent.
Ouais, bon, ça c'est le 9 du coup. Un discours alarmiste ou uniquement positif ne suffit pas. Donc effectivement, il faut probablement les deux. 10, le sujet de la santé rend concerné et pousse à agir.
Ouais, c'est un angle...
C'est l'éco-bénéfice, la transition écologique.
Ouais, c'est un angle qui n'est pas utilisé encore trop pour parler de la transition et qui, via les études, on s'aperçoit que c'est un levier majeur d'engagement. Les gens sont soucieux de leur santé, c'est juste qu'on ne communique pas dessus. On ne fait pas trop le lien entre santé et climat, donc on notifie juste qu'il y a un angle là.
L'air est meilleur et moins de cancer si tu prends ton vélo, ouais. moins de PFAS si tu as la bonne poêle, moins de pollution si tu manges bio, j'en sais rien. Ok, et 11, les textes ont leur importance, les images tout autant, si ce n'est plus.
Bon, c'était des études, quoi, effectivement, de l'importance de bien choisir son visuel, quoi. Les gens le regardent bien et ça les impacte autant que les mots, quoi.
Ok, donc ça, c'est pour la publicité. Voilà, bah écoute, hyper intéressant, ces 11 points. Vous pouvez les retrouver, du coup, sur le site de parlonsclimat.org. T'avais bien raison, on en est à 40 minutes. Amélie m'avait prévu que ça durerait moins d'une heure parce qu'elle parle très très vite. Là, cet épisode, vous n'aurez pas besoin de le mettre en x1,3, en x1, ça devrait suffire avec la vitesse de son discours. Mais c'était super intéressant. Est-ce que tu as un cas pratique proposé de à quoi ressemblerait une communication climatique bien faite pour, je sais pas, pour une famille que tu connais bien, les laisser pour compte par exemple?
On l'a pas encore mis en œuvre. C'est pas nous. Hein. Nous, on fait ça pour toutes les organisations, les assos, les émetteurs, les journalistes, l'ADEME. Enfin, on présente tout ça, si tu veux.
Utiliser les bons visuels,
le gouvernement, etc. Puisse s'y mettre. Notre gars, il est quand même encore assez récente là-dessus. Donc, on n'a pas tellement de cas pratiques. On est au tout début. Faut comprendre qu'en fait, on fait de la recherche, hein, et on cherche avec les gens. Si tu veux, nous, on n'a pas de clients, on est que des partenaires. On va voir effectivement l'ADEME, le gouvernement, tous les communicants, quoi. Et on se dit, comment on fait pour nous sortir de nos bulles? Donc nous, on arrive avec notre casquette, on dit voilà, on a des insights, on vous donne au maximum, on croit qu'on a ça comme piste, allez-y, go, saisissez-en vous. Et du coup, il y a toute une partie de Parlons Climat, où une première partie où on a fait de la formation, tu vois. Donc là, on est au step année 2, où on s'est dit, ok, on n'a plus besoin de délivrer, de justifier de ce constat de la nécessité, si tu veux, de parler différemment, c'est trop chouette. Les gens écoutent nos recos, c'est trop chouette, on peut les présenter aux journalistes, etc. Tout le monde est un petit peu convaincu. Step d'après, comment on met tous globalement en œuvre ça, quoi. Et on cherche, on n'a pas du tout la science infuse. On peut pas arriver et dire bah, voilà, c'est comme ça, viens, je te fais un slogan, laissez pour compte. Tiens, tu veux un slogan identitaire? Et on a créé une agence de pub, tu vois. Limite, on va travailler avec les pubards pour qu'ils nous disent, tu vois, qu'on travaille main dans la main en
avec
se disant comment on l'adapte, quoi.
Ouais.
Et ça sera, effectivement, ça c'est ce qui va devenir après. On a hâte de voir, il faut nous voir vraiment comme un. Ouais, c'est
un tremplin.
C'est un tremplin, quoi. On cherche tout ensemble, on fait quelque chose qui est un petit peu nouveau. On n'a pas trop d'équivalent en France, parce que pour le coup, dans le monde anglo-saxon, on a discuté avec Canada, UK, US, où il y a des structures similaires à la nôtre qui font à peu près la même chose avec beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de ressources. Et effectivement, tu vois, même eux, sur 2-3 ans, ils ont réussi à mettre 3 campagnes sur pied, tu vois, alors qu'ils sont 6. Et donc, on se dit, waouh, ça va prendre vachement de temps. Nous, on s'est dit, on va former, on va faire de la campagne. On était là, on a attendu pendant un an de se dire, quand est-ce qu'on fait une grosse campagne là? Qui c'est qui vient nous voir? Quel orga? Quels sont les militants? On va déployer une stratégie. Et en fait, on s'aperçoit que c'est vachement du temps long. C'est de la culturation, tu vois. Rien que faire passer nos idées, que ça soit intégré dans les stratégies de boîte, ça l'est chez Greenpeace, etc. C'est super chez nous et dans des mouvements sociaux, mais ça prend du temps. C'est un changement de culture, si tu veux, changement culturel.
Mais c'est fou parce que, en fait, quand tu y penses, c'est logique. Dans la pub, on fait ça depuis des années et des années, de se dire qu'on ne s'adresse pas de la même façon à n'importe quel segment, n'importe quelle cible de la population, de la même façon. Et donc, je trouve ça fou qu'on ne se soit pas dit ces dernières années, tiens, bah, en fait, dans la communication climatique, évidemment qu'il y a aussi des segments de population à toucher différemment, quoi.
Je ne sais pas si tu as travaillé du coup en agence de pub. Moi, je ne suis pas certaine que ce soit aussi bien fait que ça. Hein, parce que tu n'as pas le temps. Les clients ne payent plus trop pour du quali en amont, etc. Parce que ça te rajoute quand même pas mal de frais. Et du coup, on est vachement sur les jeunes, les vieux, fait par des créatifs et des directeurs conseils qui sont eux-mêmes un peu déconnectés de la... Donc, on est sur... je ne suis pas certaine qu'il y ait une vraie réflexion sur comment les jeunes parlent, est-ce que c'est le bon mot, etc. Tu vois, c'est assez superficiel, je pense. Plus que les travaux qu'on fait là. Il y a des planeurs strat, tu vois. Mais je pense qu'ils font des travaux et une recherche beaucoup moins poussée que ça. Vraiment.
Ok.
Il y a, oui, l'idée de s'adapter, mais est-ce que vraiment c'est pris comme une nécessité, une réflexion stratégique?
C'est vrai que moi, j'ai toujours imaginé comme quelque chose de très poussé, de très pointu, où chaque mot est... Il n'y a rien qui est laissé au hasard.
Non, en fait, non, pas du tout.
Ok.
Non, je crois pas.
Donc ça, c'est ton expérience dans la pub qui te dit ça.
Ouais, mon feeling et les gens que je connais, enfin, je mon diagnostic personnel, je crois plutôt à ça, ouais.
Ok, bah, c'est fou parce que à ce moment-là, dans ce cas, je comprends pas comment ça, enfin, même avec le big data, on sait qu'on a besoin de toutes ces données sur tous ces segments de population. Donc, même juste dans l'optique de récupérer ces données, je trouve ça intéressant de se dire qu'on aurait dû faire ça il y a déjà 10 ans, quoi.
Ouais. Et je te dis après le prochain défi. C'est d'arriver, une fois qu'on a compris, de se dire « Ah, c'est nécessaire, c'est comment on fait ?» On ne peut pas se décentrer totalement de nous-mêmes, quand même, on est qui on est. Donc oui, allez, on peut laisser la place sur les plateaux télé, on peut, tu vois, mettre d'autres personnes, voilà, faire monter des figures, et c'est très bien. C'est un défi, quoi. Voilà.
T'arriverais à deviner quel est mon système de valeurs et comment il faudrait me parler ou pas ?
Je n'oserais pas. Bah, t'es militante de cette vie, je ne te connais pas assez. Déjà, sachant que c'est un score, c'est une méthode de scoring, donc t'es... Oui, tu tombes dans la case où t'as le plus, tu vois, t'es plus en affinité, quoi.
Ouais.
Mais nous, on aime bien dire, c'est un peu comme les horoscopes, t'as des ascendants, tu vois, parce que t'es pas que militant ou que stabilisateur.
Je suis pas que dans un seul cercle.
Exactement. Il y en a un qui est majoritaire, et puis après, on a des influences. On l'a fait chez les laissés-pour-compte, on a fait une sous-typologie en se disant, en fait, il y a des laissés-pour-compte qui sont ascendants, militants, désabusés, tu vois, et qui sont déjà engagés, qui veulent faire plus, etc. Voilà.
Ça, c'est hyper intéressant ce recoupement de cercles.
Ouais, je donne ça comme exemple, les ascendants de l'horoscope. Tu vois,
okay.
Et de pouvoir, on le dit pas trop genre parce qu'on a essayé de ramasser pour dire les laissés pour compte sont plutôt comme ça, on essaye d'en faire une base un peu homogène. Et en fait, après, quand tu regardes dans le détail, on s'est dit qu'on avait 4 profils assez différents. Des gens qui sont totalement largués, qui veulent faire, mais qui demandent à la mairie, j'ai bien vu, vous avez fait une action de ramassage des déchets, est-ce que vous pouvez m'en proposer une autre? Mais eux se sentiraient pas du tout. Et ils te disent texto, j'ai besoin d'accompagnement, j'aimerais des conseils.
Ouais.
Tu vois, il y en a une partie qu'on a pas trop rien à faire, et il y en a une partie qui est complètement un peu larguée, effectivement, pour le coup, qui saisit pas les enjeux, qui est vraiment qui a lâché l'affaire.
Tu connais le MBTI?
Ouais.
C'est un peu ça, en fait, que vous êtes en train de recréer, une sorte de test de MBTI, ou je sais pas une sorte de test de personnalité de quel écolo êtes-vous, finalement.
Ouais.
Ça fait longtemps que j'ai envie d'intégrer ça à mon site web. Je serais ravi qu'on fasse un truc comme ça ensemble. Quel écolo êtes-vous et du coup, quelle action il faut que vous fassiez pour vous sentir mieux, quoi.
Ah ouais, vous savez.
Ce serait hyper cool.
Ouais.
Bah écoute, trop bien. Merci beaucoup Amélie, c'était un super moment. Ça fait quand même 45 minutes qu'on enregistre.
Ah bah tu vois, j'ai brodé.
Finalement,
on y arrive.
Voilà, vous avez vu, on a essayé de meubler. J'espère que c'était pas mal pour vous. C'était très intéressant pour moi. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré. N'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur votre plateforme d'écoute, à mettre un commentaire aussi. Ça nous aide énormément à progresser. Merci beaucoup Amélie.
Avec plaisir.
Et puis moi, je vous retrouve d'ici une dizaine de jours. À très bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecause.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.